Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Marie-Paul Kenny.
Bonjour Patrick Cohen.
Directrice de recherche INSERM, ancienne directrice adjointe de l'OMS et membre du CAIR, le comité analyse, recherche et expertise installé par Emmanuel Macron. La course au vaccin, 140 programmes lancés à travers le monde, une dizaine en phase clinique avec des essais chez l'homme, 4 mois seulement après le séquençage du virus. A-t-on déjà assisté à une telle course et à une telle rapidité?
Non, je crois que c'est vraiment inédit. Malgré des accélérations très nettes qu'on a vues par exemple dans la crise Ebola, où le début de l'évaluation clinique d'un vaccin jusqu'à la démonstration de son efficacité a duré, disons, 9 mois. Mais là, c'est inédit.
Mais est-ce qu'il est possible, comment serait-il possible de faire en un an ce qui normalement en prend 10?
Bon, alors d'abord, d'un point de vue de la recherche et du développement, où il s'agit de trouver un prototype. En fait, on s'est vraiment appuyé sur ce qui avait déjà été fait par le passé sur le virus SRAS et sur le virus MERS. Le SRAS n'avait pas été poussé jusqu'au bout puisque en fait la maladie avait disparu. Le MERS, il y a des essais en cours, des essais cliniques. Donc on s'est inspiré de tout ce qu'on savait d'autres coronavirus et on a poussé tous les concepts de vaccination en même temps, le plus rapidement possible. On voit évidemment que les choses les plus faciles à réaliser au laboratoire, comme les vaccins dits à ARN, comme par exemple celui qui est poussé par la société Moderna ou CureVac ou d'autres, ont été les premiers sur la ligne de départ des essais cliniques, mais les autres suivent de façon assez rapide derrière. Alors ça, c'est pour la phase de conception. Alors après ça, la phase des essais cliniques, comment peut-on accélérer ça? Eh bien, c'est en faisant d'une part la plupart des choses en parallèle, à risque en fait, et en réduisant autant que possible les phases d'instruction des dossiers.
Pourquoi dites-vous à risque?
Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on fait d'abord une phase clinique appelée de phase 1 chez l'homme, qui met en œuvre un essai de vaccination chez, disons, quelques dizaines de personnes. Et puis, on regarde vraiment les résultats après un an, à la fin de l'essai. Et basé là-dessus, on dessine une phase 2 qui essaye de regarder chez plusieurs centaines de personnes quel est le palier de dose, en fait. Combien faut-il injecter du produit? Est-ce qu'il faut faire une injection, deux injections ou pas? Et cette phase 2 va durer aussi un an ou quelques. Et au bout de l'année, on regarde et on analyse, etc. Et on décide de faire une phase d'efficacité ou pas. Alors, ce qu'on fait là, c'est qu'on lance en parallèle plusieurs essais de phase 1, ou bien on fait tout de suite un essai de phase 1-2. Et déjà au bout de 3 mois, on va regarder les résultats préliminaires et on va faire un certain nombre d'hypothèses en disant, d'après ce qu'on voit sur des phases préliminaires, il semble que la meilleure quantité, c'est cette quantité et qu'on peut faire une dose ou deux doses. Et on va tout de suite démarrer sur ces hypothèses les études d'efficacité. Alors, ça veut dire qu'on peut se tromper. Et si on se trompe, eh ben, il va falloir repartir en arrière et regarder d'un peu plus près. On n'aura pas vu, par exemple, si la réponse à la vaccination est de longue durée ou pas, parce que l'étude va se continuer pendant toute une année, mais on va déjà prendre les résultats du début, de 3 mois, 2 mois, 3 mois, pour baser la suite.
Il y a plusieurs techniques à l'œuvre. L'Institut Pasteur a élaboré un candidat vaccin à partir du vaccin de la rougeole qui sert de porteur à un virus atténué. C'est la méthode classique. Mais que pensez-vous? Vous en avez parlé il y a un instant de ce que fait notamment ce laboratoire américain Moderna qui injecte un ARN, un morceau du patrimoine génétique du virus. Ça ne s'est jamais fait.
Alors, il y a eu des essais, il y a des essais cliniques, mais il y a aucun vaccin enregistré approuvé chez l'homme qui est basé sur cette technologie. Alors pareil, c'est un saut en avant. Est-ce que ça va marcher? On va le voir, on le verra bientôt. Il semblerait que dans d'autres maladies, les essais cliniques sont prometteurs. Donc ça, c'est le premier, un vaccin basé, comme vous dites, sur le patrimoine génétique, l'ARN. Le deuxième qui est venu dans la course, en fait, c'est un vaccin basé sur de l'ADN, qui doit être donné avec une petite impulsion électrique dans le bras pour que ça pénètre davantage. Et il y a des essais qui sont en cours, notamment pour la maladie du MERS, un autre coronavirus. Il faut pousser tous ces vaccins jusqu'à, comme on dit, en fait, jusqu'à ce qu'ils échouent. Ça veut dire, on espère bien sûr qu'ils vont marcher, mais tant qu'on a un espoir qu'ils marchent, il faut continuer à les pousser juste au moment où on verrait éventuellement que ça n'est pas, ce n'est pas efficace.
Et ensuite, Marie-Paul Kenny, comment on passe de la de la conception et de la mise au point à la fabrication à très grande échelle, à plusieurs milliards de doses pour une bonne partie de l'humanité.
Alors, ce qui se passe, c'est que d'habitude, quand on n'est pas dans la pandémie, on attend d'avoir des résultats. Et après ça, on commence à construire des usines pour faire des doses. Alors là, encore une fois, à risque, surtout poussé par les financements américains, en fait, les compagnies ont déjà commencé à mettre en place des outils de production pour des vaccins hypothétiques, alors qu'on ne sait pas encore s'ils vont marcher ou pas, de façon à ce que la production commence en même temps, en fait, que l'évaluation clinique. Toujours est-il que le jour où il y aura du vaccin disponible, ce sera vraisemblablement pas des vaccins encore enregistrés vraiment, mais qui devront être utilisés avec des dispenses hein, pour qu'ils puissent être utilisés tout de suite, et on n'en aura pas 5 milliards. Donc ce qui doit se poser, et ça c'est un travail qui va commencer maintenant, je suis très content de voir que le président français, le président Macron et d'autres, et avec la Commission européenne, se sont mis autour de la table pour mettre de l'argent, mais aussi pour dire le vaccin doit être un bien public mondial. Et donc, il va falloir, en sachant que au début, on aura quelques millions de doses, peut-être quelques dizaines, puis quelques centaines, avant d'avoir plus. Et il s'agira de se mettre d'accord pour savoir comment vont être utilisés les premiers millions de doses.
Il faudra définir des publics prioritaires.
Alors, il faudra définir des publics prioritaires dans tous les pays. Moi, j'ai l'expérience pour la pandémie de grippe H1N1 en 2009-2010. Je travaillais à l'OMS à ce moment-là, et donc basé sur les recommandations des groupes d'experts indépendants et multinationaux de l'OMS, il fallait en toute priorité d'abord protéger les travailleurs de santé de première ligne pour que ceux-là puissent continuer à s'occuper des malades. Et donc on avait une estimation qu'il fallait couvrir à peu près 2% de la population mondiale. Et quand vous regardez maintenant, ça pourrait faire à peu près 120 millions de doses. Alors je sais pas du tout, ça c'était la grippe. Qu'est-ce qu'on va décider? Qu'est-ce que vont dire les experts? Que vont dire les pays eux-mêmes pour la pandémie de coronavirus? Mais on pourrait envisager, par exemple, que les 120 premiers millions de doses soient réservés à couvrir les travailleurs de première ligne en santé dans tous les pays du monde.
Vous venez de parler des financements américains. Quand le patron de Sanofi dit en substance que les Américains payent mieux, qu'ils sont plus efficaces et plus rapides que les Européens, est-ce que ça correspond à la réalité?
Alors, c'est sûr que ça correspond à la réalité du fait que les Américains, très rapidement, ont des mécanismes. Donc, ce mécanisme en particulier, c'est leur agence qui s'appelle BARDA, hein, et qui a des moyens financiers énormes, et qui est une agence qui sert à protéger les États-Unis de toutes sortes de risques. Alors, il y a le risque infectieux, mais il y a aussi le risque terroriste, le risque nucléaire, le risque chimique. Et donc, cette agence est dotée de moyens financiers énormes et donc peut être en état de mettre de l'argent sur la table très vite, quasiment sans appel d'offres en fait, hein, pas simplement par une revue qu'ils ont. Et donc, les industries adorent ça parce qu'on leur donne beaucoup d'argent sans même leur demander des contreparties, à part de développer des produits. Alors, on voit par exemple, l'argent de BARDA a été utilisé pour mettre en place, par exemple, un vaccin à l'époque, après la chute des tours au World Trade Center. Il y avait beaucoup de peur d'utilisation du charbon, hein, qui est une bactérie en Amérique comme bioterrorisme. Et donc BARDA a financé énormément l'industrie pour mettre en place des outils. Et après ça, l'administration américaine les a achetés à prix d'or. Donc c'est un peu ça le problème de BARDA. Et je pense qu'on discute aussi de la mise en place d'une agence équivalente en fait au niveau européen. Ça peut pas se faire au niveau français, il faut que ce soit au niveau européen, mais ce que je souhaite, c'est que, en tout cas, si on met en place ce genre d'agence, il faudra demander des retours et une redevabilité à l'industrie qui reçoit l'argent, et pas seulement recevoir l'argent pour faire des développements et après ça vendre au pouvoir public les produits qu'ils ont déjà payés une fois, une deuxième fois à prix d'or.
Oui, pas à n'importe quel prix. Merci beaucoup Marie-Paule Kenny, ancienne directrice adjointe de l'OMS et membre du CAR, l'un des deux conseils du gouvernement. Merci à vous.
Je vous en prie.